Radio Kapi.
Tête à tête hier à Kinshasa entre Recep Tayyip Erdogan et Félix-Antoine Tshisekedi. Les présidents turcs et congolais ont également signé de nouveaux accords en plus de ceux signés en septembre dernier à Ankara. Radio Okapi totalise 20 ans d'existence le 25 février prochain. Nous vous proposerons à partir de ce lundi des témoignages sur son rôle et son impact dans les grands moments de la vie de la RDC. Dans ce journal, vous écouterez les témoignages des acteurs socio-économiques de Goma. Et en invité, toujours en rapport avec les 20 ans de Radio Okapi, vous suivrez l'interview que nous a accordée Dismas Kitenge, président du groupe Lotus, une organisation nationale de défense des droits de l'homme. Bonjour à tous. C'est depuis 16h30 de Kinshasa hier dimanche que le président turc Recep Tayyip Erdogan a foulé le sol de Kinshasa pour une visite de 24 heures en RDC. Arrivé au palais de la nation où il a été accueilli par son homologue congolais, les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête bien avant la signature de nouveaux accords, en plus de ceux signés en septembre 2021 à Ankara. C'était lors de la visite de Félix Tshisekedi en Turquie, attirant l'attention sur le renforcement des relations économiques et commerciales entre la Turquie et la RDC, conformément à l'élan atteint dans les relations politiques. Le président Erdogan a déclaré « Nous avons presque doublé notre volume d'échanges bilatéraux qui était de 36,5 millions de dollars en 2018 avant la pandémie. Nous avançons décidément vers notre objectif commercial de 250 millions de dollars ». Enfin, le président turc souligne avoir emmené avec lui 100 000 doses de vaccins contre la COVID-19 pour soutenir la lutte de la RDC contre la pandémie. Processus électoral en RDC, l'Observatoire de la dépense publique, ODEP, a publié un rapport le week-end intitulé « Encore des élections business en RDC ». Le rapport réagit en fait aux propos du président de la CENI sur les antennes de Top Congo la semaine dernière, selon lesquelles la CENI n'aurait rien reçu jusque-là en termes de fonds pour les opérations électorales. Un propos qu'à son tour a contredit via les médias le ministre des Finances. Le rapport de l'ODEP signale que justement 67,2 millions de dollars américains destinés aux opérations électorales ont pris une destination inconnue. Il recommande par ailleurs au gouvernement de prendre des mesures nécessaires pour garantir à la CENI la jouissance effective de l'autonomie financière conformément aux dispositions de la loi. Noëlla Louzitou.
S'agissant du ministère des Finances, l'Observatoire de la dépense publique affirme que depuis l'entrée en fonction du nouveau bureau de la CENI, le trésor public a décaissé 104,2 millions de dollars, dont plus de 90% couvrent les dépenses de fonctionnement. Pourtant, le ministre des Finances a annoncé le 15 février dernier une mise à disposition de fonds de 37 millions de dollars. Entre le versement annoncé par le ministre des Finances et ceux retracés par le ministère du Budget, l'ODEP constate un écart de 67,2 millions de dollars dont la destination reste à démontrer par les acteurs du circuit de la dépense publique. À propos de la Commission nationale électorale indépendante, l'ODEP note l'absence d'un plan de décaissement fourni par la CENI et d'un débat public organisé au Parlement. Quant au budget de 640 millions de dollars sollicité selon l'ODEP par la CENI pour les opérations électorales, il estime que la RDC étant à son quatrième cycle électoral, des matériels et la quincaillerie électorale existent déjà. Le budget actuel de la CENI ne devrait donc pas dépasser 350 millions de dollars, d'où ODEP recommande au Premier ministre de prendre une décision pour encadrer la procédure de mise à disposition effectuée par le gouvernement à la CENI, au ministre des Finances d'exiger un plan de décaissement avec chronogramme, enfin à l'IGF d'initier un audit complet de la CENI de 2012 à ces jours.
Contacté par Radio Okapi, la porte-parole de la CENI a promis de réagir prochainement à ce rapport de l'ODEP. Et puis, l'Union nationale des nationalistes, UNANA, alliée à l'AFDCA, s'insurge contre le projet du gouvernement d'imposer la mutualisation des services entre la CENI, l'UNIP et l'INS dans le cadre des opérations d'identification des électeurs couplées au recensement des Congolais. C'est ce qu'a déclaré hier dimanche à Kinshasa devant sa base de la Tchangou, le président national de l'UNANA, au cours d'une matinée sur les enjeux politiques et électoraux de l'heure. Prince Willy Mishiki dénonce cette énième violation de l'indépendance de la CENI qui risque de retarder les élections de 2023. Ces propos ont été recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Nous pensons que le gouvernement ne doit pas opposer la mutualisation des services CENI, ONIP et INS à la CENI car l'article 211 de la Constitution lui attribue la compétence exclusive de l'organisation de toutes les opérations électorales. L'article 6 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI consacre l'autonomie administrative et financière de celle, cela étant son budget propre et sous forme de dotation. Donc, le gouvernement doit donner cette dotation à la CENI. L'article 7 de la CENI consacre l'indépendance de la CENI des autres institutions de la République. L'article 42, alinéa 4 de la loi organique stipule que le Parlement exerce son pouvoir de contrôle sur la gestion de la CENI conformément à l'article 100 de la Constitution. Cela étant, l'IGF ne peut pas patrouiller à la CENI. En plus, le contrôle doit être postérieur à la gestion. Seule la Cour des comptes peut contrôler la gestion de la CENI à la fin des opérations électorales pour les comptes du Parlement.
Suppression de la taxe RAM dès le 1er mars prochain, décidée par le dernier conseil de ministres. L'avocat conseil des consommateurs congolais réagit. Joint par Radio Capi, dimanche, maître Hervé Diakissé affirme que cette décision est nécessaire, mais non suffisante. Il promet de poursuivre l'action en justice pour la restitution aux consommateurs de l'argent consommé par cette taxe. Hervé Diakissé est au téléphone de Paul Matindou.
Il n'empêche que c'est une mesure nécessaire mais non suffisante parce qu'elle pose la vraie question: quelles sont devenues l'ensemble des sommes prélevées au titre des RAM qui nous appartiennent et qui nous doivent être restituées d'une part, et en ce qui concerne mes clients qui m'avaient constitué, nous allons continuer l'action en justice pour la restitution de ces sommes et des paiements des dommages et intérêts pour les préjudices qui nous ont été causés. Eh bien, dans un état de droit, lorsqu'un citoyen est lésé, il saisit la justice. Je dois croire que nous sommes toujours dans un état de droit, et donc nous irons à nouveau devant les greffes de ces juridictions, et si jamais ces portes nous sont fermées, nous aurons la preuve à la face du monde que tous les recours internes en République démocratique du Congo ont été épuisés, et nous pouvons saisir les instances au niveau international, où les entreprises de télécommunications ont des filiales ou ont leur maison mère.
Au cours du dernier conseil des ministres, le président de la République a invité le gouvernement à finaliser le projet du code du numérique et de le transmettre au Parlement à la prochaine session pour son examen et son adoption. Ce code est un dispositif répressif adapté à la cybercriminalité. Pour sa part, à propos de ce code numérique à finaliser, le professeur Kodjo Ndokuma, expert en droit numérique, joint par Radio Capi hier dimanche, suggère par exemple que ces codes permettent d'administrer une preuve et une signature électronique et dans les téléphones pour éviter le caractère d'anonymat des cybercriminels. Kodjo Ndokuma est au téléphone de Paul Matendo.
Il est important d'avoir un code beaucoup plus avancé qui peut entrer dans les détails par rapport aux dispositions pénales existantes déjà. La deuxième chose qui est importante que ce code du numérique devrait faire, ça consiste à établir des procédures spéciales de traitement de la cybercriminalité. Vous savez que la cybercriminalité se déroule dans le cyberespace. On ne fait pas de la mystique ou quoi. Ça signifie que ça se passe dans les téléphones des gens. Il y a ces critères d'anonymat. Il y a également ce critère de caractère transfrontière. Ça veut dire qu'une personne peut être à l'étranger et se mettre à se jouer des hommes politiques ici au Congo. Il y a également le fait qu'on doit administrer une preuve électronique et une signature électronique. Ça veut dire qu'on doit attacher un acte qui est immatériel à une personne physique bien identifiée. Donc l'importance, ce n'est pas tant de trouver des incriminations, ça veut dire de dire tel un comportement est criminel, tel comportement en ligne est criminel, mais l'important c'est de créer une procédure d'administration de la preuve électronique qui permet d'identifier les cybercriminels derrière leur téléphone.
Radio Okapi fête le 20e anniversaire de son existence. À partir de ce lundi, la radio de la paix en RDC diffuse dans ses différentes émissions et journaux des témoignages sur son rôle et son impact dans les grands moments de la vie de la RDC. Le premier reportage est réalisé à Goma. Plusieurs acteurs socio-économiques et politiques reconnaissent le rôle de Radio Okapi, qualifié de révolutionnaire dans l'espace médiatique congolais d'alors. Reportage de Jules Ngala.
Pour Pepe Mikwa, acteur socio-économique à Goma, l'histoire du Radio Okapi et celle du processus de paix en RDC sont intimement liées.
À partir des Radio Okapi en 2002, on a commencé à suivre le processus de paix de Sun City et cela nous a permis déjà comme acteurs de la société civile et comme population à imposer nos desiderata à ceux qui étaient à la table des négociations. C'est-à-dire, on disait à ces gens-là, ne revenez pas ici sans avoir signé un accord. C'était comme une pression pour que la paix revienne vite.
De son côté, Mami Kayumba Assoumani, acteur politique, mais étudiante en février 2002, se souvient que l'avènement du Radio Okapi était alors une nouvelle façon d'informer en RDC.
On passait vraiment du temps en tant qu'étudiante à suivre la radio Okapi parce que pour nous c'était vraiment une nouveauté au pays.
Le nouveau narratif apporté par Radio Okapi a révolutionné le monde médiatique, reconnaît pour sa part David Kalinda, directeur à Pole FM. Goma, Jules Ngala wa Mona, Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, le gouverneur Gentini Ngobila vient de lancer le projet de numérisation de contrats de bail entre propriétaires et locataires. C'était vendredi à l'hôtel de ville de Kinshasa. Dans son discours, l'autorité urbaine a renseigné que le projet consiste à constituer une base de données permettant aux services fiscaux et financiers de la ville de Kinshasa d'avoir en temps réel ce que le contribuable a payé. Ceci va limiter le phénomène de coulage de recettes, a-t-il fait savoir. Le ministre du Commerce, Industrie et Action Humanitaire du gouvernement provincial de Kinshasa, Osei Badibanga, précise que ce projet a comme objectif d'organiser le secteur des baux à loyer dans cette ville. On écoute Osei Badibanga au micro de Guy Maté.
D'abord, c'est pour faire respecter la loi dans notre pays. Vous savez très bien que la loi dit que la garantie locative pour une maison d'habitation, c'est 3 mois de garantie locative. Vous êtes sans ignorer aussi, messieurs les journalistes, qu'il y a d'autres bailleurs qui perçoivent plus de 3 mois. Voilà, c'est d'abord pour faire respecter la loi dans notre pays et aussi pour faire que les Congolais aient aussi la culture sur le paiement de son impôt et de taxes. Vous savez, il y a une taxe que la ville de Kinshasa doit normalement percevoir sur la location de maison et qui ne le perçoit presque pas. Donc c'est l'impôt sur les revenus locatifs. Normalement, l'impôt sur les revenus locatifs doit être perçu dans le loyer que le locataire est en train de payer chaque fin du mois. Normalement, c'est le locataire qui retient cette taxe-là à la source et paye à la ville.
Actualité internationale. Au Niger, 7 enfants ont été tués et 5 autres ont été blessés alors qu'ils jouaient dans la cour d'une maison dans la région de Maradi, à la frontière avec le Nigeria. Ils ont été victimes d'une frappe de l'armée nigériane. Les victimes avaient moins de 12 ans. Un Soudanais a perdu la vie hier dimanche dans la répression des manifestations anti-push, selon des médecins. Les faits se sont déroulés au moment où l'émissaire de l'ONU pour les droits de l'homme entamait une visite dans le pays où la violence s'est installée depuis le coup d'État d'octobre dernier. Alors que des milliers de manifestants défilaient dans la capitale, une balle a fauché un homme de 51 ans, rapporte un syndicat de médecins. Il s'agit d'un patient qui sortait d'une amputation et cherchait à échapper au gaz lacrymogène tiré dans l'hôpital où il s'est trouvé.
L'invité.
25 février 2002, 25 février 2022, 20 ans se sont écoulés, jour pour jour, depuis la création de Radio Okapi. 20 ans après, quel témoignage peut-on faire aujourd'hui de cette radio? Quelle aura été sa contribution sur le plan socio-économique? Et quelles recommandations peut-on formuler aux décideurs en ce qui concerne sa survie? Dismas Kitenge, président du groupe Lotus, une organisation nationale de défense des droits de l'homme et vice-président honoraire de la Fédération internationale de droits de l'homme, FIDH, s'entretient avec Jacques Moukonkolé.
Dismas Kitenge, bonjour.
Bonjour.
Radio Okapi va célébrer ce 25 février 20 ans de son existence en République démocratique du Congo. Quel témoignage pouvez-vous faire aujourd'hui de cette radio onusienne?
Merci beaucoup. En tant qu'acteur de droits humains, Evran à Kisangani et en République démocratique du Congo sur le plan international, qui a suivi les débuts de la radio Okapi le 25 février 2002 jusqu'au jour d'aujourd'hui, les témoignages que je donne, c'est d'abord les témoignages d'une radio de proximité. Radio de proximité avec les populations locales, avec les acteurs de la société civile, avec les autorités qui suivent les informations au quotidien de ce qui se déroule dans la société. Et une radio de proximité, c'est le premier témoignage intéressant. Radio d'objectivité. Radio Capi est vraiment impartiale. C'est une radio qui donne les informations d'une façon désintéressée. Donc, tous les sons des cloches de toutes les parties sont entendus. Ça, c'est deuxième fait. Troisième fait, c'est une radio des professionnels. Professionnels, à ce sens que ce sont des gens qui connaissent les métiers, maîtrisent la déontologie professionnelle journalistique.
Est-ce que Radio Okapi a eu un impact dans la vie sociale, politique et économique dans notre pays et spécialement dans la province de la Tchopo?
J'ai dit que la Radio Okapi a eu un impact. Un impact dans le développement de la société sur le plan politique. Sur le plan politique, note très rapidement trois moments forts qui ont caractérisé la province de la Tchopo et la Grande Orientale à l'époque où Radio Okapi était installée en 2002. La Radio Okapi était installée pendant le moment des conflits armés. Et à ce moment-là, Radio Okapi a essayé d'avoir un impact sur les conséquences néfastes de cette partition du pays. Le pays était divisé en plusieurs parties. Il y avait des mouvements rebelles qui contrôlaient, il y avait le gouvernement. Mais Radio Okapi s'est installé dans ce contexte de conflits armés.
Oui, selon vous, quelle aura été sa contribution?
Radio Okapi a contribué à la réunification du pays. C'est-à-dire, à ce moment-là, où nous étions ici à Kisangani pendant la rébellion, on ne savait pas ce qui s'est passé à Kinshasa en 2002. Grâce à Radio Okapi, nous qui étions dans la partie rebelle, nous avons su suivre les informations de la partie gouvernementale. Nous avons su aussi suivre les informations des autres parties qui étaient occupées par la rébellion. Sur le plan social, Radio Okapi a su, à l'époque où elle a commencé dans ces contextes, contribuer à unir le peuple, le pays, par la circulation des informations. Et grâce à cette radio-là, dans le contexte des guerres, des conflits armés, on a commencé à avoir des informations de nos frères et sœurs qui étaient dans d'autres parties. Donc, sur le plan politique et social, c'était déjà la réunification du pays qui a commencé avec la Radio Okapi. Ça, c'était très important.
Dismas, que pouvez-vous dire du point de vue économique?
La Radio Okapi, sur le plan économique, nous donnait aussi des informations de ce qui s'est passé ailleurs, les problèmes économiques, et comment on pouvait se relier. Ça, la Radio Okapi a eu un impact. Et la Radio Okapi a eu un impact aussi par le fait que c'était parmi les premières radios qui étaient déjà connectées à l'Internet. C'est que la Radio Okapi nous a permis de nous connecter au monde. C'est-à-dire, il y avait des personnes qui pouvaient entrer sur le site Internet de la Radio Okapi et suivre les informations de Kisangani, par exemple, qui étaient enclavées pendant la rébellion. Et nous suivions aussi ce qui s'est passé à Nitour et ainsi de suite. Et le monde entier pouvait suivre aussi les informations. Et Radio Okapi a contribué au désenclavement et aussi à la connexion de la RDC au monde.
Dismas, en tant qu'activiste des droits de l'homme, est-ce que Radio Okapi a eu à vous accompagner?
L'accompagnement de la Radio Okapi dans notre travail en tant que défenseur des droits humains, surtout dans les deux domaines de notre travail, c'est-à-dire la promotion des droits humains et la protection des droits humains, Radio Okapi a joué un rôle très important.
Dans la perspective d'un départ prochain de la MONUSCO du pays, quelles recommandations pouvez-vous faire aujourd'hui en ce qui concerne la survie de la Radio Okapi?
Avec le travail que la Radio Okapi a fait, il faut que la Radio Okapi continue sans la MONUSCO. On sait que la MONUSCO partira. Mais ça, il y a plusieurs voies pour essayer de capitaliser ce travail, de pérenniser les efforts de la Radio Okapi, mais aussi de valoriser le travail qu'a fait la MONUSCO. Puisque ici, avec la fermeture de la Radio Okapi, il y a risque que tout le travail là, formidable que la Radio Okapi a fait 20 ans, ne soit plus reconnu.
Dismas Kitenge, merci.
Merci beaucoup.
C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.